bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va parler de plein de petits sujets d'actualité, comme toujours, mais avant, petit tuto pratique. Donc, j'ai reçu pas mal de personnes, enfin de questions de personnes qui m'ont dit « Tu nous parles souvent des notes de l'émission, mais en fait, comment on y va ?» Et en fait, bon, je vais vous donner la technique pour comment ça s'appelle Apple Podcast, je crois que c'est ça, ou podcast sur Apple, là, la petite icône violette. Quand on est sur un podcast et qu'on est en train de l'écouter sur Apple Podcast, vous avez la barre en fait en bas avec le lecteur, ben vous cliquez dessus et en fait après vous avez, quand vous glissez un petit peu vers le haut, bon, vous avez le player plus 15, moins 15, moins 30, enfin selon comment vous l'avez paramétré, vous avez mise en veille et ensuite en dessous vous avez une note sur l'épisode qui est par défaut masquée en fait, et il y a un petit bouton, il y a marqué afficher et là tadam, quand vous appuyez, ça y est, vous avez les notes de l'émission. Donc, comme ça, ça vous évite d'aller le rechercher sur le site, etc. Là, directement sur Apple, vous l'avez. Donc, j'imagine que c'est un peu pareil sur toutes les plateformes. C'est par défaut masqué. Il faut l'afficher. C'est normal, en fait. Hein, je vous explique pourquoi rapidement. Quelle que soit la plateforme, que ça soit YouTube ou autre, il faut en sorte de masquer ce genre de choses parce que vu qu'il y a des liens qui vont mener sur, par exemple, mon site, eh ben, ça va vous faire quitter leur plateforme d'écoute. Et eux, ils ont pas envie. Le but, c'est que vous soyez tout le temps chez eux. Donc voilà. Donc c'est pour ça, ils vont pas mettre en avant des outils qui vont faire sortir du podcast de l'écoute, quoi. Bien que quand vous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez cliquer sur les liens et ça coupe pas le podcast. C'est ça qui est cool. Il y a que sur YouTube, si vous êtes pas en YouTube Premium, que ça coupe de mémoire. Bref. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose que j'avais envie de partager avec vous, oui, j'ai, vous savez, là, depuis, alors ceux qui suivent un petit peu tout ce que je raconte, j'ai mis en place un canal Telegram depuis peut-être 3 semaines maintenant. On n'est pas nombreux dessus, on est quelques-uns. Et en fait, je partage régulièrement des petits trucs, alors des trucs que je mets plus forcément sur les réseaux sociaux, type Instagram et tout ça. Parce que bah voilà, moi, enfin vous savez, tout ce qui est story et tout, j'en publiais, je crois les là où j'étais le plus régulier, c'était en 2016. Et depuis, bah c'est un peu devenu la cohue et ça me plaît moins. Et puis je trouve pas trop d'intérêt à le faire actuellement. Mais par contre, quand j'ai des petits trucs que j'ai envie de partager avec les gens qui me suivent de près entre guillemets, eh ben je le mets sur Telegram. Donc là par exemple, ce matin j'ai partagé, j'ai fabriqué en fait, enfin j'ai tuné un petit peu un bracelet de montre. C'était ma petite méditation du dimanche matin après le sport, avec des fils et tout ça de couleurs. Enfin bon bref, j'ai partagé la photo, mais il y a également la barre de traction que j'utilise, que j'ai mis récemment. La dernière fois on parlait de literie, de matelas, donc il y a le lien du matelas que j'ai, enfin des choses comme ça, voilà, des choses un petit peu plus personnelles. Donc ça, voilà, ça fait partie des choses que je vous mets dans les notes de l'émission. Ça s'appelle canal Telegram pour rejoindre. Alors c'est 100% gratuit. Hein. On n'est vraiment pas nombreux. Et c'est pour ça que moi, moins on est de monde, plus ça m'encourage finalement à mettre des choses un petit peu plus personnelles, parce que j'aime pas trop quand il y a un petit peu tout le monde qui vient comme ça. Là, c'est une application, puis ça permet d'avoir aussi les news et tout ça que je partage sur le site. Donc je trouve ça intéressant. Bon. Dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va voir ? La première chose, c'est le thème, hein, grignoter ne fait pas grossir, point d'interrogation. Alors, est-ce que... Alors, attendez, hop, je fais juste un petit truc. Voilà. Donc, grignoter ne ferait pas grossir. Donc, c'est un article que j'ai récupéré. Donc, encore une fois, toutes les sources, les références des articles, vous les avez en note d'émission. Il y a un lien, vous cliquez, vous avez toutes les sources. Moi, ça me permet d'être, de pas piquer le contenu des autres, de vous montrer d'où ça vient. Et puis, si vous voulez vous voulez réagir un petit peu plus en détail avec le sujet du podcast, un des sujets, au moins vous pouvez contacter les personnes, les rédacteurs des articles en question. Donc le titre, grignoter ne fait pas grossir. Alors là, je démarre la citation. Le corps est en hypoglycémie et réclame du sucre. C'est normal, précise la thérapeute. Déguster une petite collation, compote, fruits, noix, produits laitiers, un morceau de pain plus un morceau de fromage ou quelques carrés de chocolat, des biscuits, assis à table sans rien faire d'autre. Donc en fait, l'idée de grignoter moi je suis pas pour le grignotage honnêtement pour plusieurs raisons, mais c'est vrai que dans le monde du fitness, on a tendance à pas forcément grignoter. Alors ceux qui sont dans le fitness pur. Ceux qui sont dans le fitness pur, c'est ceux qui fonctionnent un petit peu avec l'école bodybuilding. Ils vont avoir tendance à avoir un repas le matin, une collation de milieu de matinée, un repas le midi, une collation d'après-midi. S'ils s'entraînent en fin d'après-midi, une collation après l'entraînement, plus le repas du soir et parfois même une collation avant d'aller se coucher. Donc du coup, ils ont pas forcément, pour eux, le grignotage, ça veut rien dire parce que c'est pas du grignotage, ce sont des collations, c'est calculé, c'est précis, ça rentre dans leur rapport quotidien, etc. Mais en règle générale, ces personnes-là ont des repas moins conséquents. Donc, c'est-à-dire que le matin, midi, soir, c'est pas des gros repas, c'est des repas plus modestes. Et ils ont après un apport en protéines, en glucides et tout aussi réparti un petit peu sur les collations. Donc c'est un choix, c'est un mode de vie, c'est un style de vie un peu bodybuilding, j'ai envie de dire, mais qui est très répandu, enfin notamment aux États-Unis, assez moins chez nous en France, à part les vieux de la vieille, mais sinon c'est relatif. En France là, à ce moment, on est vraiment dans la mode du jeûne intermittent, mais sinon c'est un petit peu plus pour les Américains et les Anglais aussi. Mais là, dans le thème de l'article, il y a un truc où ça pose un petit peu problème. Je me mets à la place d'un lecteur lambda. Donc un lecteur lambda qui tomberait sur cet article et qui lirait la petite citation de la thérapeute qui dit « Le corps est en hypoglycémie et réclame du sucre, c'est normal ». Donc beaucoup de personnes là vont se dire « Je suis en hypoglycémie, donc je manque de sucre, donc il faut que j'en mange ». Et là, c'est le premier bug. C'est-à-dire que quand on a une lecture sans connaissance, l'hypoglycémie, le corps réclame du sucre. Non, déjà, il faut rétablir la chose. Le corps réclame du glucose. Et ce glucose-là, est-ce qu'il est amené essentiellement par du sucre? Non, pas forcément. Il peut être amené par tout un tas d'aliments. Sauf que la rapidité à laquelle ça va être tamponné, donc l'hypoglycémie, va varier en fonction de la nature de l'aliment. Donc évidemment, si vous mangez un morceau de pain blanc ou un morceau de sucre ou je sais pas, un Kinder ou quoi, la réponse va être beaucoup plus rapide. Donc la sortie de l'hypoglycémie va être plus rapide que si vous mangez une tranche de blanc de poulet, admettons. Mais ça veut pas dire que le taux de glucose sanguin ne va pas remonter après la tranche de blanc de poulet. Elle va remonter, mais pas aussi rapidement. Et c'est là où je me répète régulièrement, je le sais. Mais pour lire de l'actualité, pour lire des articles, il faut avoir une certaine dose de connaissance. C'est-à-dire que là où il y a une problématique, c'est que même les contenus qui sont à but grand public ne sont pas réellement à but grand public parce qu'en fait, ils essaient tellement de vulgariser et d'aller à l'essentiel qu'ils y vont trop. Et là, cette phrase-là qui dit « le corps est en hypoglycémie et réclame du sucre, c'est normal », donc en gros, remanger du sucre, eh ben c'est trop... La vulgarisation est trop extrême et donc du coup, une personne moyenne, en fait, va se dire « il faut que je mange du sucre ». Et là, c'est là où problème. Bon, deuxième chose où je suis moyennement d'accord, c'est déguster une petite collation. Compote, fruits, noix, produits laitiers, un morceau de pain, un morceau de fromage ou quelques carrés de chocolat, des biscuits. Toutes ces choses-là, en fait, on peut pas les mettre dans le même panier parce que je peux pas mettre dans le même panier des noix, un morceau de pain, un morceau de fromage, du chocolat, des biscuits. Enfin, je veux dire, là, en fait, c'est bizarre. Il y a des produits non transformés, des produits transformés, on met tout dans le même panier, donc sous prétexte que ce serait pas, enfin, que ça serait similaire, quoi. Et j'ai un petit peu de mal avec ça parce que, les personnes qui ont du mal à perdre du poids. Je vais prendre des exemples typiques, classiques même, que vous connaissez tous autour de vous. On a tous rencontré des personnes qui n'ont pas un poids de forme, donc qui ont et le désir et visuellement besoin de perdre du poids. Parce que, enfin, on le sait maintenant, quand une personne est en surpoids, elle est en mauvaise santé par défaut. Hein. Enfin, c'est un peu comme, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais un malade qui s'ignore, entre guillemets, puisque dépasser un certain tour de taille, on est à risque de beaucoup de pathologies. Donc une personne qui est en surpoids au niveau visuel, mais également qui le sait, donc qui est, cette personne est consciente de son surpoids, enfin, on le voit régulièrement. Parfois, ce sont des personnes qui ne prennent pas de petit déjeuner, donc qui commencent à manger que le midi, donc potentiellement en jeûne intermittent. Alors que, enfin, là, on se dit, mais je comprends pas, cette personne fait le jeûne intermittent, elle mange pas le matin. Mais en fait, il y en a plein des gens qui sautent le petit déjeuner. Moi, qui fais des consultations régulièrement avec des personnes qui ont des questionnements par rapport à tout un tas de choses dans le monde du fitness, je me rends compte qu'à plus de 50% du temps, les gens, c'est, ils sautent le petit déjeuner. C'est-à-dire que et pourtant, c'est souvent des désirs de perdre du poids, etc. Donc le petit déjeuner est souvent sauté. Le repas du midi est relativement contrôlé parce que c'est soit sur le lieu de travail. Donc ça veut dire quoi? Quand je dis relativement contrôlé, ça veut pas dire que la nature des aliments est contrôlée, ça veut dire que les quantités sont limitées. C'est-à-dire que quand vous allez manger au resto ou à la cantine, bah vous avez votre plateau. Et puis bon, en ce moment, resto et cantine, c'est pas trop d'actualité, mais vous avez votre plateau, la dose est prévue ou la gamelle que vous êtes préparée, c'est prévu. Alors je sais qu'il y en a qui aiment pas le mot gamelle. Dans le monde du boulot, ceux qui ne travaillent pas avec un petit repas emporté, nous, enfin souvent, on appelle ça des gamelles. Alors il y en a qui vont appeler ça des. Comment on appelle ça? Il y a une marque là avec les Tupperwares, c'est à la mode. Enfin bon, comment? Enfin, je vais pas leur faire de la pub, mais les trucs repas que vous emportez sur le lieu de travail, quoi, en gros. Et donc c'est relativement modeste et contrôlé en termes de dosage. Et donc du coup, à un moment donné, si vous n'avez pas eu de petit déjeuner, si le repas du midi est modeste et que vous faites du sport et tout ça, il y a un moment donné où vous allez réclamer. Enfin, c'est pas vous qui allez réclamer, c'est votre organisme va réclamer les calories manquantes. Et ces calories manquantes, ils vont se manifester en fin de journée devant vous parce que vous allez être bien reposé, enfin pas reposé justement, bien détendu, mais complètement épuisé au niveau de la volonté puisque toute la journée est passée, vous avez dû affronter des diverses tâches mentales et physiques. Et donc du coup, c'est là où va s'installer l'abondance alimentaire. Donc c'est là où moi je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Parce que si on autorise, enfin si on autorise, c'est pas chacun fait ce qu'il veut, mais si on encourage le grignotage en plus de ça, ben ça ne peut pas aller mieux. Donc le grignotage ne ferait pas grossir. Ben moi je suis d'accord avec ça dans l'image, dans l'idée, dans le protocole, dans le style de vie de quelqu'un qui fait attention, c'est-à-dire qui a un style de vie fitness et tout ça, et donc du coup qui fractionne ses prises alimentaires. Comme le font et le faisaient les anciens culturistes, à peu près toutes les 2-3 heures, bon voilà, en prise de masse et tout ça. Après, pour un individu ou une personne qui souhaite perdre du gras, qui a pas trop de notions en alimentation et tout, ben moi je me rends compte de plus en plus que les gens veulent démystifier, déconstruire en fait les choses un peu difficiles pour rendre un petit peu, ben en fait pas besoin de vous prendre la tête, vous pouvez manger à l'instinct, vous pouvez grignoter, vous pouvez manger le soir, vous pouvez faire tout un tas de choses, mais je ne comprends pas pourquoi. Alors que toute la science va dans l'autre sens, hein, je vous le dis clairement, grignotage, produits transformés, enfin bon, toutes ces choses-là, ça va dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire que ça démontre bien que c'est pas bon. Pourquoi il y a des gens qui recommandent ça? Pour moi, ça pourrait peut-être avoir un sens pour des personnes qui font des TCA, c'est-à-dire des personnes qui vont se retenir de toute leur force de grignoter et de manger la journée et qui vont péter leur frigo le soir et leur placard vraiment à se faire mal au ventre. Pourquoi pas pour ces personnes-là, si ça peut leur permettre d'avoir moins de calories, de mieux gérer leur crise, ok. Mais ça serait une partie du traitement. Mais je sais pas si cet article s'adresse à ce genre de personnes. Donc moi, je pense que oui, cette thérapeute a raison. On peut, quand il y a des hypoglycémies, il faut, ben voilà, si le corps est en hypoglycémie, il faut l'aider. Mais je pense que l'article en lui-même devrait être un petit peu plus précis. Et je suis pas pour tirer les gens vers le bas. C'est-à-dire de les maintenir à un niveau de connaissances médiocre, il faut dire ce qui est. Je préfère fournir des informations un petit peu plus pointues, de manière à forcer les gens à se tirer vers le haut. Et ça c'est mon point de vue. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais j'ai peur qu'avec ce genre d'articles, qui sont d'ailleurs beaucoup plus lus et beaucoup plus populaires que des articles un petit peu plus sérieux, sérieux dans le sens avec plus de données. Je dis pas que cet article n'est pas sérieux, je dis juste que cet article est moins il y a moins de jargon scientifique et tout, donc du coup c'est moins effrayant pour un lecteur moyen. Mais la problématique que je trouve par rapport à ça, c'est que voilà, on va retenir le grand titre, la grosse citation, le corps est en hypoglycémie et réclame du sucre, c'est normal, donc vous pouvez grignoter, manger du sucre, votre corps le demande, c'est bon pour la santé, etc. Là, j'ai plus de mal parce qu'il faut il faut des compétences, il faut des connaissances pour réussir à bien gérer ça. Et on peut pas mettre compote, fruits, noix, produits laitiers, morceaux de pain, fromage, carré de chocolat et biscuits dans le même panier pour une petite collation. Voilà, ça c'est mon point de vue. Par contre, je suis d'accord avec le assis à table sans rien faire d'autre pendant la collation. Ça, je suis d'accord parce que plus on est devant quelque chose, un écran, une story ou quoi pendant qu'on prend sa collation, et moins on va avoir l'impression de manger. Et enfin, c'est pas bon quoi. Deuxième chose. Je bois un petit coup d'eau et je continue. On est déjà 11 minutes de podcast, il faut que j'accélère un peu. D'ailleurs, juste petit rappel, ce dimanche à 10h est sortie la formation sur l'iode. Donc l'iode, et je vous montre, il y a tout un tableau, il y a plein de choses, c'est en vidéo. C'est intéressant parce que l'iode, on en entend de plus en plus parler, et je pense que c'est une notion qui est assez peu connue, en tout cas dans la nutrition en France. Vous avez déjà dû entendre parler du sel iodé, de toutes ces choses-là, ou de l'iode et de la thyroïde, ce genre de choses. Je vous ai fait une petite formation pour savoir si vous êtes à risque de carence ou pas, et savoir un petit peu les bonnes habitudes que vous pouvez avoir pour justement, si vous faites partie de ce cas de figure-là, et certainement si vous faites du sport, de solutionner ces potentiels risques de carence. Même si on n'est pas dans un pays à risque de carence forte. Bref, vous avez le lien en description. Donc voilà, une deuxième chose que j'ai vue, c'est une étude sur Clermont-Ferrand, donc un appel à l'étude. Je sais pas si ça peut intéresser des personnes qui écoutent le podcast. Moi, personnellement, je le ferai pas, mais parce que j'aurais pas envie de le faire, mais je sais qu'il y a des personnes qui pourraient le faire. Je crois qu'elle est rémunérée. En tout cas, vous mangez à l'œil, ça c'est sûr. Donc, l'étude requiert des hommes entre 25 et 55 ans, pesant plus de 73 kilos et dont le tour de taille au niveau du nombril est supérieur à 94 centimètres. Les personnes remplissant ces conditions sont susceptibles de présenter plus de risques de cardiovasculaire que la moyenne. Et en fait, ils font une étude sur l'alimentation. Donc l'étude, c'est pour comparer. Alors il y a l'INRA qui est impliqué, voilà. Et c'est une étude pour deux styles d'alimentation, donc plutôt végétal. En fait, c'est une étude où ils veulent orienter des gens à manger végétal. Donc avec, je crois, un tiers de protéines animales dans la diète et deux tiers d'origine végétale, et une autre où ça serait de l'alimentation avec des protéines animales comme à peu près la personne moyenne, c'est-à-dire beaucoup. Je suis curieux. Alors le régime, voilà. Donc le régime A ressemble dans ses apports à celui d'un Français moyen. Environ deux tiers des apports en protéines sont issus des produits animaux et un tiers en produits végétaux. Et le régime alimentaire B est constitué à l'inverse de deux tiers des apports protéinés sont issus de produits végétaux contre un tiers de produits animaux. Donc voilà, il dit il ne s'agit pas du tout de diaboliser les apports animaux. Donc voilà. Bref, donc ceux que ça intéresse, l'étude est à Clermont-Ferrand, je crois. Je vous ai mis le lien si vous voulez voir à quoi ça ressemble, si vous voulez y participer. Moi, je suis pas affilié à ça, hein. C'est juste que j'ai vu ça dans l'actu. Si ça peut intéresser, je pense que personne va mourir de cette étude. Enfin, bien que je sais pas le nombre de participants qu'il va y avoir, mais s'ils prennent des personnes à risque, ben c'est pour bien voir laquelle des deux est la plus risquée. Je suis curieux d'avoir les résultats, mais encore une fois, faut voir la nature de la diète, parce que l'apport alimentaire, les deux tiers de protéines du Français moyen, je vous le dis tout de suite, c'est pas des blancs de poulet, du steak maigre et des œufs bio bleu blanc cœur. Ça sera charcutes, protéines issues des produits préparés. Donc certes, lasagne, donc bœuf ou viande de cheval, je sais pas, ça dépend. Et donc voilà, ça va être j'imagine, s'il se rapproche du français moyen, ça sera pas notre diète à nous. Hein. Mais bon, ça peut être intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce que si on inclut dans cette étude des gens comme vous et moi, ça peut un peu fausser les données, parce que justement votre état de santé devrait être normalement un petit peu meilleur si vous mangez mieux et faites du sport. Donc je sais pas si vous avez le droit finalement même de participer à l'étude, parce que ça se trouve ils veulent des gens sans sport, j'en sais rien, mais voilà, je sais que c'est, il y a une contribution financière, et moi personnellement, si on me demande de faire un choix, je préfère faire ça plutôt que sur un vaccin. Bref. Donc troisième actu découverte. Attends, je vais fermer la porte, j'arrive. voilà, les joies de l'enregistrement de podcast sans faire de pause. Donc une perte de poids extrême. Alors oui, ceux qui connaissent pas Dominique Farrugia, donc qui faisait partie et qui fait peut-être toujours, enfin je pense que c'est plus d'actualité, mais vous savez le groupe Les Nuls avec Alain Chabat et compagnie. Il a fait une grosse perte de poids, donc il a toujours été en surpoids. Il a dit, enfin voilà, il a toujours été en surpoids. Et là, il a mis un tweet où il est marqué une fois pour toutes, j'ai maigri, je pesais 120 kilos et j'en pèse aujourd'hui 74. Bon, il faut savoir que cette personne, depuis plusieurs années, est atteinte d'une SEP, d'une sclérose en plaques. Donc je trouve que je trouve ça hyper inspirant qu'une personne en chaise roulante comme lui, donc d'abord il a été avec des béquilles, maintenant il est en chaise roulante, ait réussi à passer de 120 kilos à 74 kilos. Enfin force à lui, enfin force de, enfin je trouve, alors sclérose en plaques, c'est pas une pathologie légère, hein, c'est quand même une maladie neurodégénérative assez lourde. Et je trouve en chaise roulante qu'une personne en chaise roulante réussir à passer de 120 kilos à 74 kilos, enfin je veux dire pour toutes les personnes 100% valides qui n'y arrivent pas, c'est pour moi quelque chose de, alors je sais ça va les faire culpabiliser, vont dire Théo c'est pas bien parce que eux ils culpabilisent, c'est un problème de santé, c'est un problème de machin de... Eh ben justement, c'est le quatrième sujet qui s'appelle « Les obèses ne sont pas responsables de leur surpoids ». Je bois un coup et on en parle. Donc encore une fois, les sources, vous les retrouverez dans les notes de l'émission. Donc « Les obèses ne sont pas responsables de leur surpoids ». Je cite « Entre patrimoine génétique, alimentation ultra transformée, sédentarité croissante, mais aussi altération du microbiote intestinal, stress en tout genre et même pollution de l'air, les raisons de ce fléau, l'obésité, sont tellement variées que le fat shaming devrait, depuis longtemps, appartenir au passé. » Donc le fat shaming, donc S-H-A-M-I-N-G, je ne savais même pas que ça existait. En fait, c'est le fait de dénigrer les personnes en surpoids, enfin d'avoir une image négative de ces gens-là et tout. Je me suis déjà expliqué dans d'autres podcasts, je trouve ça complètement, enfin bête, en fait, de... L'obésité est une pathologie. Donc l'obésité est une pathologie et un problème de santé. Pour moi, critiquer, pointer du doigt une personne obèse, ce serait comme de dire « t'as un cancer, bouh, mais t'es moche, t'es laid ». Enfin, je veux dire, c'est une personne qui fait ça, on a envie de lui casser les genoux. Enfin, on n'a pas, on peut pas, enfin voilà, c'est, pour moi, ça fait, c'est une pathologie. Dans le même ordre que de se moquer d'une personne en dépression, de se moquer d'une personne, toute pathologie. Donc du coup, l'obésité étant une pathologie, bon, c'est, je trouve ça quand même étrange de s'en moquer. Étrange dans le sens où, enfin voilà, c'est la personne qui s'en moque, elle a quand même une petite, enfin elle a pas beaucoup d'empathie. Je sais pas ce qui, pour moi c'est ça, c'est des critiques d'adolescents ou de, et d'enfants. Vous savez quand on est vraiment ultra, on s'en fout de tout quoi. On a juste envie de faire un peu de briller en société quoi. Mais là où j'ai un petit problème, c'est quand ils disent les obèses ne sont pas responsables de leur surpoids. J'ai du mal avec ça pour plusieurs raisons. Déjà, je ne suis pas pour de déresponsabiliser un individu de sa situation. Parce que, si vous voulez, moi, je vais faire un grand écart avec d'autres sujets. J'ai remarqué une chose personnelle, c'est que quand je suis dans des périodes de doute, souvent, les périodes de doute que je vis dans ma vie, dans mes années, dans les mois que je traverse, ce sont des périodes qui suivent immédiatement des moments où j'ai créé beaucoup. C'est-à-dire que quand j'accouche de nombreuses choses, que ça soit des contenus, des idées, des voilà, que ça soit au niveau professionnel ou personnel, quand j'ai accouché de ça, j'ai une forme de baby blues en fait, mais baby blues de, enfin j'ai accouché de mon bébé entre guillemets, de ma productivité. Et après, je traverse une petite période, un petit creux, où là, ben, en fait, et qui m'est nécessaire, hein. D'ailleurs, je tiens à préciser, ça m'est nécessaire. En fait, c'est une période où mon corps me dit, waouh, là, t'as envoyé la purée pendant pas mal de semaines, de jours, de mois, parfois. Tu passes un creux de vague, et c'est nécessaire que pendant cette période, j'ai de la remise en question, j'ai de l'ennui, j'ai du doute et tout, pour faire jaillir, en fait, de la créativité dans le futur. Eh ben, j'ai remarqué une chose, c'est que durant ces périodes de doute, je suis hyper, hyper, hyper aimanté par la déresponsabilisation des situations. C'est-à-dire, je m'explique, je suis plus attiré par des contenus polémiques, des contenus qui pourraient être de style... Alors, j'ai jamais été dans la théorie du complot, tous ces trucs-là, mais vous savez, il y a des petits contenus qui sont pas forcément la théorie du complot, mais... un petit peu quand même, tu sais, les contenus, par exemple, l'industrie agroalimentaire veut te faire du mal, des choses comme ça. Tu sais, ce genre de choses où, comme s'il y avait des choses secrètes, et à cause de ces sociétés secrètes, que ça soit au niveau du gouvernement, au niveau de l'alimentation, etc., etc. Attendez, petite pause, téléphone sonne, toujours quand j'enregistre, hein, évidemment, c'est jamais un autre moment. Donc, on reprend. Excusez-moi, je sais même plus où j'en étais, c'était un colis qui arrivait et ça m'a complètement embrouillé l'esprit. Bref, oui, je disais que quand j'ai ces périodes-là, j'ai tendance à être aimanté, attiré par ces contenus-là. En fait, par une forme de déresponsabilisation de ma situation. C'est-à-dire que si je vais mal, c'est parce que à cause de ci, à cause de ça, à cause de... Et en fait... j'encourage fortement les gens à se remettre en question par rapport à tout un tas de choses. Ce sont surtout ces côtés où on se sent pas bien pour des raisons X ou Y, donc des situations de vie, un échec de perte de poids, un échec où on n'a pas réussi à s'entraîner et tout. On a toujours, quand on est épuisé, une forme très rassurante et très réconfortante de croire que ce n'est pas de notre faute, c'est-à-dire de se déresponsabiliser. Et je suis contre ça. C'est-à-dire que je préfère largement être dans l'acceptation, de pas être dans le déni, de dire, ok, en ce moment j'ai pas envie, mais surtout pas dire c'est de la faute de l'État, c'est de la faute de telle ou telle chose, parce que ça voudrait dire que déjà on n'est pas maître de sa situation, donc notre vie est contrôlée par d'autres personnes, et ça je pense que personne n'en a envie. Enfin moi peut-être qu'après j'ai peut-être un petit conflit d'enfance contre l'autorité qui est non résolu, j'en sais rien, mais je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront en tout cas dans mes propos. Quand on est face, en fait, on cherche des réponses à des questions compliquées quand on a ces périodes-là, et une personne qui est obèse a une vie déjà compliqué à cause de ces saloperies de personnes qui se moquent d'elles, mais aussi par rapport à elles-mêmes. Elles savent très bien qu'elles aimeraient perdre du poids, mais elles y arrivent pas, donc du coup ça crée un conflit, elles sont beaucoup plus épuisées que d'autres personnes à cause de ça. C'est pas fluide, quoi. Et là où je voulais intervenir, dans les citations de l'article là que j'ai donné, quand on dit les obèses ne sont pas responsables de leur surpoids, je veux pas en fait aller dans, fondamentalement je veux pas aller dans ce sens-là, dans le sens où je veux pas les pointer du doigt en disant vous faites que des mauvais choix, c'est de votre faute, pas du tout, mais de leur donner plutôt l'occasion de se dire vous pouvez être responsable. Donc ça veut dire que si vous pouvez être responsable, ça veut dire que vous ne dépendez pas des autres uniquement. Patrimoine génétique, je veux bien. C'est-à-dire que le patrimoine génétique, on est avec un patrimoine génétique, c'est comme ça, on peut pas le changer. Enfin, il y a un peu d'épigénétique, mais on peut pas réellement se changer profondément. Mais regardez les études au niveau génétique, c'est pas le truc qui va vraiment le levier maximal. Et souvent, ceux qui y arrivent le mieux, vous savez, la meilleure génétique du monde. Ça veut rien dire, hein. Pourquoi ? Parce que c'est quoi une bonne génétique ? Alors aujourd'hui, une bonne génétique, les gens vont dire oui, bah c'est être de pas avoir trop de poids, etc., etc. Mais en fait, la réalité, c'est quoi ? C'est que si on stocke beaucoup de poids aujourd'hui, c'est un fléau. Mais si jamais demain on est tous en mode Koh-Lanta, celui qui a stocké beaucoup survivra plus longtemps. Et celui qui a les abdos apparents en mangeant du McDo, il crève tout de suite, hein, dans la savane s'il n'y a rien à bouffer. Donc, vous voyez le côté normalité, pas normal, quelle bonne génétique, mauvaise génétique, c'est problématique en fait. C'est par rapport à un contexte. Est-ce que le contexte d'aujourd'hui est naturel ? J'en sais rien. Enfin, en tout cas, c'est celui dans lequel on vit. Donc pourquoi je dis tout ça ? Parce que patrimoine génétique, ok, on n'est pas responsable de ça, on peut rien y faire quelque part. On peut un peu travailler sur son épigénétique et le fait de bien manger, de faire du sport, de limiter le stress, de bien dormir, surtout bien dormir d'ailleurs. On peut avoir une influence sur sa génétique, donc modifier un petit peu, hein, je parle. Mais après, voilà. Et après, ils mettent dans la même catégorie aliments ultra transformés. Mais depuis quand on n'est pas responsable de ce qu'on met dans son assiette ? Je veux dire, les aliments ultra transformés, ils existent. Et moi, personne n'est venu me mettre un couteau sous la gorge pour les manger. Donc, il faut pas les mettre dans la même catégorie. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des aliments ultra transformés, mais on n'est pas obligé de les acheter. Donc, du coup, on a une forme de responsabilité face à un article. Est-ce qu'on choisit les pâtes chinoises instantanées qui se cuisent dans le bouillon d'eau, ou est-ce qu'on va choisir, je sais pas, des fruits ou autre, j'en sais rien. On a une forme, et moi je pense qu'il faut redonner aux gens leur appuyer beaucoup de dire, mais t'as la responsabilité, tu as ton libre arbitre, même si le libre arbitre il est ce qu'il est avec le marketing ambiant, mais tu as quand même la capacité de prendre des décisions, ne te laisse pas trop entraîner dans ce qu'on dit. Tu as la liberté de prendre des décisions. Sédentarité croissante, c'est pareil. La sédentarité croissante, elle résulte de quoi? Elle résulte du grand boom des années, on va dire, fin des années 90, début 2000, où toute la jeunesse, tous les jeunes ont voulu avoir un travail qui ne ressemblait pas au travail difficile. On est tous allés faire des stages quand on était en troisième ou quatrième au collège. Et on a tous goûté un petit peu aux travaux manuels, à toutes ces choses-là. Et donc forcément, on a eu des expériences plus ou moins agréables. Donc du coup, on a eu envie pour beaucoup d'entre nous de se tourner vers un métier plus confortable, à l'abri de la pluie et du froid, et en été, à la climatisation. Ouais, on a pris notre décision sans savoir que ça allait augmenter la sédentarité, qui allait devoir être compensée par un effort volontaire de notre part, le sport, un peu de marche le week-end, enfin voilà, des choses pour essayer un petit peu de contrebalancer ça. Mais c'est pas une mauvaise chose, la sédentarité au travail, hein. Je dis pas que c'est une très mauvaise chose. Par contre, je dis une chose, c'est que il faut la contrecarrer. Et c'est quand même plus agréable de compenser de la sédentarité avec des choses qui pourraient nous plaire. Alors moi, personnellement, c'est la musculation et d'aller marcher. Par exemple, hier, avec ma compagne, on allait marcher. Enfin bon, bref, voilà, je vous passe les détails, mais... Et on a la chance aujourd'hui, quand on a un métier sédentaire, de contrebalancer ça avec de l'activité physique qui nous plaît et pas qui est imposée par notre travail. Donc du coup, qui potentiellement ne pourrait pas nous plaire. Par exemple, je sais pas, un maçon, il a pas forcément envie de se baisser 100 fois par jour, voire plus, pour aller chercher des parpaings, et etc. Mais il a pas le choix, en fait. S'il veut monter son mur, il doit faire ça. Alors que, je sais pas, une personne qui travaille dans un bureau, elle a le choix de choisir tout un éventail d'activités physiques, du ping-pong jusqu'à la natation, et elle a le choix. Donc, c'est quand même plus agréable. Donc, responsabilité. Un, l'alimentation. On est responsable de ce qu'on met dans son assiette. Deux, la sédentarité. On est responsable du temps passé assis. Hein. On peut rester assis toute la journée, pas de problème, mais c'est un choix. C'est-à-dire que c'est le travail qu'on a choisi de faire. Alors, si on est chômeur, on n'est pas obligatoirement sédentaire. Hein. Ça, voilà. Mère au foyer, père au foyer, chômeur, chômeuse, ou retraité avec un E à la fin, comme vous voulez, on n'est pas obligé d'être sédentaire. Hein. Il y a plein de choses à faire. On peut être debout, faire le ménage, ranger le garage. Enfin bon, bref, on peut faire tout un tas de choses. Après, ils disent les altérations du microbiote intestinal. Mais en fait, ça, c'est lié à l'alimentation ultra transformée, à la sédentarité, au manque de sommeil. Donc, responsabilité, oui, on a une responsabilité sur ça. On peut agir là-dessus. Et il y a une altération, certes, mais cette altération, elle vient pas de nulle part, en fait. Elle vient d'actions produites par l'individu. Ensuite, on a stress en tout genre et même pollution de l'air. Donc, pollution de l'air, ok, on n'est pas responsable de ça. Enfin, on l'est de manière globale, donc tous, avec les diesels, les machins. Mais bon, en même temps, on nous a tous dit, faut arrêter les essences, passer au diesel. Puis aujourd'hui, on nous dit l'inverse. Puis, enfin, de toute façon, c'est passé à l'électrique en 2024-25. C'est mort, les voitures thermiques dans les grandes villes. Donc, la pollution de l'air, ok, on n'a pas trop de moyens d'agir maintenant tout de suite à titre individuel dans l'immédiat, mais même s'il faut faire des efforts de manière générale tous un petit peu à notre échelle, quoi. Mais par contre, le stress, on a des moyens d'agir. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, que ça soit de la méditation, de l'hypnose, d'aller marcher en forêt, tout un tas de choses, on peut se responsabiliser là-dessus. Donc, les obèses ne sont pas responsables de leur surpoids. Je trouve pas ça motivant pour quelqu'un en surpoids. C'est-à-dire qu'une personne en surpoids, on lui dit ça. Une personne qui a zéro connaissance, hein, je parle. On lui dit, tu n'es pas responsable de ton surpoids. Qu'est-ce qu'elle va faire? À part le vivre comme, un, déjà une fatalité, ce qui est forcément, enfin, je veux dire, c'est un petit peu comme si on lui disait, je sais pas qui, Dieu, une étoile, n'importe qui t'a choisi pour te dire que t'étais, enfin, toi, t'es l'élu t'es en surpoids. Non, moi, je pense que les re-responsabiliser ces gens-là, mais dans un sens positif, hein, je parle responsabiliser. Ça veut dire de leur dire, non, fais attention à tout ce qui se dit, tu as quand même des leviers d'action. Après, ça veut pas dire que ça va être aussi facile que n'importe qui, mais ne crois pas que il faut te laisser aller sur la pente glissante du surpoids en, sous prétexte que tu n'as pas le contrôle dessus parce que ce n'est pas ta faute. C'est pas une histoire de faute ou de pas faute, c'est une histoire de responsabilité. Tu peux faire des choix qui ont dans le sens où ça va aller mieux ou moins bien, mais c'est juste ça. Mais effectivement, il y a des choses où tu n'es pas maître de la situation, genre ta génétique, genre ton enfance, hein, comment t'as été alimenté dans ton enfance, et t'avais pas le choix, c'est pas toi qui faisais les courses, c'est pas toi qui remplissais ton assiette, la situation là, géographique dans laquelle t'as grandi et tout. Mais à partir du moment où on devient autonome, c'est-à-dire adulte, logiquement pour moi, adulte c'est quand on devient autonome, la liberté de pouvoir aller habiter plus ou moins où on veut en fonction de son budget, de manger plus ou moins ce qu'on veut en fonction de son budget, enfin bon bref, vous avez compris, on a une forme de responsabilité qui s'installe, et j'aime pas ce genre d'article qui finalement s'adresserait presque à des enfants ou des adolescents. Qui n'ont pas en fait, qui n'ont pas le pouvoir de décision sur leur propre vie, quoi. Et moi, je préfère le encourager les gens qui sont obèses et en surpoids, qui m'écoutent, de dire vous avez une responsabilité et prenez-la en fait. Ne la laissez pas. Ne laissez pas des gens dire que vous n'avez pas d'autre choix que d'être en surpoids. Vous avez d'autres choix et vous avez des leviers, l'alimentation, la sédentarité, le contrôle du stress. Comme ils disent là, altération du microbiote intestinal, ça je trouve ça bizarre parce que, comme je disais tout à l'heure, le microbiote intestinal est altéré par des situations de vie qui sont faites par l'individu. Donc on est toujours, comme je disais la dernière fois, personne n'est imparfait, on est juste le parfait résultat des actions qu'on a menées jusqu'à aujourd'hui. Donc une personne en surpoids est parfaite, c'est la parfaite représentation de ce qu'elle a fait, de sa génétique, de tout ça. Mais elle n'est pas imparfaite, c'est pas possible, elle peut pas être imparfaite. C'est-à-dire qu'elle peut pas, en ayant fait tout pour aller dans un sens, avoir un résultat différent. C'est pas le hasard en fait, c'est pas possible. Donc on est tous parfaits, on est tous le parfait résultat de ce qu'on fait. Et donc, par rapport à ça, moi je trouve ça plutôt encourageant, et c'est pour ça que je préfère, je peux avoir ce discours-là parce que j'ai traversé ça, en fait, j'ai vécu ça. Et donc du coup, j'ai envie de donner aux gens des pistes. Alors j'ai pas été en obésité morbide, mais bon, moi l'histoire des 94 cm de tour de taille supérieur à ça, avec les problèmes de santé qui vont avec, enfin les potentiels problèmes de santé, parce que moi je les ai pas eu, mais ils étaient quand même sous-jacents, enfin je sais pas comment dire, mais potentiellement le risque était beaucoup plus élevé qu'une personne qui avait pas ça. J'ai traversé ça, donc j'ai une certaine forme de légitimité à en parler, à la fois parce que j'ai eu les revers psychologiques, donc c'est-à-dire le fat shaming qui s'appelait pas comme ça en fait, hein. Enfin, t'avais du bide, tes collègues de boulot ils disaient putain mais t'es un gros lard, mais c'était on se taquine comme ça en fait, nous entre mecs c'était à l'époque bon, et quelque part des fois ça peut piquer, donc on fait bonne figure, mais t'as envie de lui foutre ton poing dans la gueule quoi, tu vois, même si c'est un pote, quand il te dit ça t'as quand même envie de le piquer un peu, et tu sais inconsciemment que c'est quand même un peu défavorable pour le côté séduction et tout ça. Bref, après tu grandis et tout, et puis tu fais des choix, tu dis est-ce que je reste comme ça ou pas. Mais responsabilisons-nous tous. Il y a beaucoup d'exemples, et c'est pour ça que j'ai voulu parler de ça juste après celui sur Dominique Farrugia, parce que 120 kilos, chaise roulante, pathologie assez sévère quand même, la sclérose en plaque, et aujourd'hui il en pèse 74 kilos, il a pas 20 ans, il a pas 20 ans ce monsieur. Donc je trouve que leur redonner la liberté aux personnes en surpoids de pouvoir faire des choix et pas de leur dire c'est une fatalité. Je trouve ça beaucoup plus motivant en fait. Bref, c'est mon point de vue, vous avez le droit de me critiquer. Et je m'arrête ici pour ce sujet. Alors j'avais eu un autre sujet, j'avais même deux autres petits sujets, une citation de lecture et un autre sujet. Je vous les donne pas dans le podcast parce que ça fait déjà trop longtemps qu'on parle ensemble et je sais qu'il y en a qui me disent Théo, il faudrait pas que ça dure trop longtemps non plus. Donc je vais m'arrêter ici. Les deux autres sujets, par contre, je vous les mets quand même dans les notes de l'émission. Donc vous avez le lien pour avoir toutes les sources et je vous les mets à la fin de mon article. Donc c'est sur le site. C'est deux autres trucs que j'avais envie de parler. Une citation de lecture et un résumé d'article. Et bah vous pouvez aller voir ça en description. Et pour rappel, si vous voulez me rejoindre sur Telegram pour le petit canal avec les tips quotidiens où je parle, enfin c'est muscu et pas que muscu, hein, c'est de tout. Et d'ailleurs j'ai partagé aussi l'interview que j'ai donnée pour un YouTuber récemment où justement on parle de mon style de vie, de mes autres passions, de tout un tas de choses. Il y a le lien dans ce fameux canal Telegram. Allez y faire un tour, on se retrouve là-bas. Et merci à tous pour votre fidélité et votre écoute depuis toutes ces années. Bye bye.
Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles hein, sur la plateforme que tu préfères, hein, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.